Bon, dans le dossier du Château Laurier, il y a pas mal d'angles possibles. Évidemment, on peut regarder ce qui, sur le fond du dossier. Moi, je pense que la ville a peut-être les mains un peu attachées avec sa propre réglementation. Il y a la question des paliers supérieurs. Il y a la question aussi de la dynamique du conseil municipal. On voit que ce dossier-là est en train d'amener pas mal de tensions au conseil. Et pour avoir un regard un peu extérieur à tout cela, c'est avec plaisir que je l'accueille. Il est professeur en gestion et en droit à l'Université d'Ottawa. Gilles Levasseur est mon invité. Bonjour, M. Levasseur.
Bonjour.
Bon. Comme résident d'Ottawa, comme professeur à l'Université d'Ottawa, vous avez sûrement là, un regard assez sévère sur ce qui se passe présentement autour du Château Laurier pour l'agrandissement. On va commencer sur cette facette-là. Qu'est-ce que vous pensez là, de la décision du conseil probablement d'aller de l'avant avec l'agrandissement qui n'est pas tout à fait en norme avec la beauté du château?
Bien, au départ, ce qui est triste derrière tout cela, c'est le fait qu'on arrive à une décision finale sans être capable de pouvoir avoir un plan du patrimoine architectural pour la ville d'Ottawa. Ce qui arrive, c'est qu'il n'y a pas de modèle dans lequel on veut bâtir une ville, dans lequel on va avoir des édifices, on va avoir des constructions qui sont à l'image d'une municipalité. On a un règlement municipal sur la façon de faire approuver un changement de zonage, un changement de construction, mais on n'a pas un design de la ville. Donc, la ville est piégée parce qu'elle n'a pas cette structure-là qui la guide pour dire, écoutez, voici ce qu'on s'attend d'une construction, surtout dans un domaine historique, voici ce qu'on voudrait avoir comme image de la ville d'Ottawa, voici ce que ça devrait être demain, la ville. Il n'y a rien de cela. Donc, quand on applique le règlement puis la procédure, la ville est piégée parce qu'elle dit, ben c'est ça la démarche, ils l'ont respectée, on est obligé d'agir parce qu'il n'y a pas d'autre guide pour être capable de faire une décision.
Ben, c'est à ma lecture ce matin, puis l'avoir vécu du côté québécois, tu sais, il y a un livre de règlement. Puis quand quelqu'un respecte le livre de règlement, t'as pas grand choix que d'y donner un permis de construction. Ce que vous semblez dire, c'est qu'il manque un chapitre dans le livre de règlement, puis le chapitre, c'est voici le modèle architectural qui va être acceptable pour tel secteur de la ville. C'est un petit peu ça que vous dites.
Absolument, parce qu'on fait ça dans des grandes villes américaines, puis on le voit ça à travers l'Europe, où est-ce qu'on dit, par exemple, les toitures des édifices doivent avoir telle image, on peut pas utiliser tel produit. On a ça, par exemple, à Gatineau, dans certains secteurs, où est-ce qu'on dit que les fenêtres peuvent pas être en blanc, elles doivent être brunes, ou d'une autre couleur désignée. On a déjà commencé à faire cela, par exemple, à Gatineau, dans certains secteurs, les clôtures, l'image des clôtures, tout cela. Mais ce qui est triste, c'est qu'on n'a pas ce modèle-là pour les gros édifices. Donc, le constructeur là, qui va faire le projet pour le Château Laurier, il respecte la démarche qui est prévue. Donc, il a le droit d'avoir son permis, même si les gens sont opposés, parce que ça défait toute l'image historique d'un quartier. Okay. Vous êtes à côté du Musée des Beaux-Arts d'Ottawa. Vous êtes dans un endroit qui est vraiment exceptionnel. Et là, on fait un modèle qui est totalement différent de ce qui existe dans la réalité. Et c'est là le problème, c'est que le modèle qui est construit n'est pas en harmonie avec le restant des édifices que vous avez. Vous avez la rue McKenzie, vous avez le ministère de l'Agence du revenu qui est à côté. Il y a tout ce côté-là gothique. Et là, on vous arrive avec quelque chose qui est post-mortem. Alors là, le problème, c'est que les gens disent, mais c'est tellement moderne que ça défait toute l'image du quartier.
Donc, le conseil n'a pas de poignée pour retarder ou refuser cette demande de rénovation ou d'agrandissement. Vous êtes en train, dans le fond, de dire que le maire Watson a raison de dire « je me bouche le nez, mais je suis obligé de dire oui ».
Absolument. Pas parce que, nécessairement, il aime le projet, mais parce que, bref, il n'y a rien qui l'empêche de le faire, le projet, parce qu'il n'y a rien qui lui dit qu'ils ont contrevenu à une disposition. Et c'est là, c'est qu'il faut regarder le rôle des autres intervenants au sein de la municipalité d'Ottawa. La CCN là-dedans, c'est quoi sa place? Qu'est-ce qu'elle a comme réponse? Quelle est sa recommandation? Parce que la CCN est là dans un mandat très spécifique pour l'embellissement de la région de la capitale nationale du Canada. Donc, c'est quoi elle? Sa réponse, c'est quoi son commentaire? Qu'est-ce qu'elle fait comme agissement? Qu'est-ce qu'elle a utilisé comme pouvoir pour changer la démarche, pour influencer le système? Parce qu'elle a aussi certains pouvoirs d'influence. Donc, c'est ça qu'il faut regarder aussi dans toute la démarche.
CCN, peut-être. Selon Serge Joyal, le ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez, devrait agir. Vous en pensez quoi?
Mais le problème, c'est qu'en vertu de quelles compétences législatives est-ce que le fédéral peut intervenir? C'est que c'est seulement la CCN qui a le bras pour être capable d'agir parce qu'elle a un contrôle sur le terrain, elle a un contrôle sur certains espaces parce qu'il y a certains terrains qui sont adjacents à des propriétés qui appartiennent à la CCN. La piste cyclable, vous avez ensuite les chutes, tout ça. Donc, il y a des pouvoirs où est-ce que la CCN peut intervenir par Canada pour intervenir dans certains cas. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que le fédéral est très limité. Donc, si, par exemple, le fédéral vient faire des subventions, offre des subventions au projet, il y a un problème, parce que là, qu'est-ce qui arrive, c'est que vous avez des gens qui sont opposés, puis là, on leur donne des projets d'investissement, puis on leur donne un appui, ça serait inacceptable. Okay. Donc, c'est ça qui est la limite qu'il faut regarder aussi dans l'intervention du fédéral.
OK. Je veux revenir un pas derrière, OK? Je veux juste revenir sur le commentaire que vous faisiez que, dans le fond, ils ont les mains attachées, le conseil municipal d'Ottawa n'a pas beaucoup de moyens de dire non. J'aimerais regarder un scénario avec vous, d'ailleurs. D'accord, monsieur Levasseur? Oui. Alors, disons que le conseil municipal, à huis clos, se dit ça. Ils se disent entre eux, tu sais, on n'est pas capable de le bloquer, mais on va le bloquer. On n'aimait pas le permis. On dit qu'on trouve pas ça beau, puis on ne l'aimait pas. Pour que le promoteur nous poursuive à Ottawa, et pendant ce temps-là, je vais changer le règlement, puis je vais ajouter un paragraphe concernant justement la caractéristique architecturale puis la beauté, etc. Est-ce que ça serait une voie à prendre ou est-ce que de toute façon, l'important, c'est la date du dépôt de la demande puis ça va être rétroactif puis le nouveau règlement n'agira pas? Expliquez-moi ça, là.
OK. Techniquement, on ne pourrait pas faire un effet rétroactif si la démarche qui a été déposée est en conformité avec le règlement au moment où ça a été déposé. La seule exception, ça serait que si on modifie la législation qui gouverne le système pour permettre l'effet rétroactif. Donc, on pourrait exiger cela dans un élément rétroactif dans la législation, mais il faut vraiment le faire dans un contexte où est-ce que ça enlève pas le projet, mais ça le modifie pour avoir l'image architecturale ou la structure que l'on veut. Le problème, c'est que ça se fera jamais parce qu'il faut aller à Queen's Park et Queen's Park bougera pas là-dessus parce qu'ils vont vous dire c'est le marché qui décide, c'est la société qui a accepté ce règlement-là, donc vivez avec vos décisions. Ouais. Mais on ne pourrait pas le faire au niveau du règlement municipal parce que ce serait de mauvaise foi. Et actuellement, la Ville est poursuivie sur plusieurs dossiers. OC Transpo, par exemple, c'est un très gros dossier, un recours collectif. La Ville a des poursuites contre elle pour différents dossiers. Le maire, il se dit, je peux pas en prendre un autre, j'en ai déjà assez dans mon assiette. S'il vous plaît, passez à autre chose. J'ai déjà des problèmes avec le projet de l'Armée du Salut. Écoutez, là, je veux régler ces dossiers-là, ça avance pas. J'ai le train qui est déjà avec des problèmes. Vous savez, ajouter cela, c'est un autre problème qui fait en sorte que la ville bouge pas. Alors, c'est pour ça que c'est plus facile de prendre une décision de dire, émets le permis, vas-y, les gens sont pas contents, mais ils vont se fermer les yeux, puis ils vont s'habituer dans 15 ans.
D'ailleurs, c'est l'argument du maire qui dit, on va s'habituer, ça sera plus si laid que ça avec le temps, pas sûr. Et parce que moi, je l'ai vécu à Québec, là, ce qu'on appelle le bâtiment J, le calorifère à côté qu'on appelle, à côté de l'Assemblée nationale, c'est épouvantable. Ça fait des années qu'on dit qu'on devrait démolir ça. Les gens s'habituent pas. Le maire de Ottawa utilise un argument qui, à mon sens, est à double tranchant, double face. Il dit, puis de toute façon, moi, j'ai une ville d'un million, j'ai reçu que 500 courriels sur le Château Laurier. Ça intéresse donc pas les gens. Vous en pensez quoi?
Mais il faut faire attention qu'il ne faut pas agir parce que, bref, automatiquement, il y a un certain nombre de gens qui écrivent des courriels pour dire leur point de vue. Il faut plutôt le faire en fonction d'une vision, d'une image, d'une réalité de notre société. Et deux, de prendre une décision qui, on sait, qui amène une controverse qui va perturber. Vous savez, quand vous avez déjà l'influence des médias qui sont déjà dans le dossier, quand vous avez déjà des gens qui contestent déjà de façon publique et qui sont très connus, quand vous avez des gens qui sont dans le milieu architectural, qui ont une expertise, une expérience et une compétence qui vous disent qu'il y a un problème de fond, il ne faut pas regarder juste le nombre de courriels, il faut regarder plutôt l'importance de l'argumentation et qu'est-ce que ça a comme conséquence, parce que c'est ton héritage à toi que tu laisses comme maire aussi. C'est l'image que tu laisses à ta société. Donc, il faut qu'il y ait aussi une certaine fierté de dire « ceci est ma réalité et ceci, c'est ce que je veux laisser comme, vous savez, beauté à ma ville ». Donc, le problème avec la construction, c'est parce que si vous regardez depuis 15 ans à Ottawa, les nouveaux édifices sont pratiquement des édifices carrés avec un extérieur en métal. Parce que c'est très rapide à construire, la structure est moins lourde parce qu'il y a moins de portance sur les murs parce que c'est du métal. On fait juste installer des fenêtres et ça se construit rapidement et on rentabilise très vite l'édifice. Puis c'est comme ça qu'on a choisi le projet et c'est toujours une question de rentabilité en fonction du coût du pied carré par rapport à la qualité des chambres. Parce que normalement, vous regardez le taux d'occupation des chambres, puis le Château Laurier a un taux d'occupation d'à peu près 80-82% sur une base annuelle. Et il ramasse à peu près 175 à 180 $ par chambre. C'est quand vous enlevez les coûts de maintenance. Le problème, c'est que si tu veux rentabiliser cet investissement-là, tu peux pas le faire sur une base de 30 ans, faut que tu le fasses sur une base de 5 à 8 ans. C'est pour ça qu'on a éliminé la brique, la structure traditionnelle du quartier, pour faire ça plus rapide, qui est efficace et qui va être capable de louer tout de suite des chambres dans moins de 2 ans.
Très intéressant. Merci beaucoup, professeur Levasseur.
Toujours un plaisir.
Salut, bye. Merci beaucoup, bye. Gilles Levasseur, professeur de droit et de gestion à l'Université d'Ottawa.